Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, mise en onde ce matin par Clément Daté, réalisée par Benjamin Hu. Deuxième temps de notre série consacrée aux nouveaux risques nucléaires. Hier, nous parlions du retour de la course aux armements entre les principales puissances nucléaires que sont les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore la France, des puissances qui avaient déjà développé un arsenal lorsque la communauté internationale s'est lancée dans une dynamique de non-prolifération avec le traité de non-prolifération de 1968. Tournons-nous aujourd'hui vers ces pays qui font fi de ce traité, justement, qui possèdent, qui ont possédé des programmes plus ou moins clandestins. De Pyongyang à Téhéran, l'échec de la non-prolifération, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
À midi, le 3 septembre 2017, nos scientifiques de l'usine de tests nucléaires, au nord du pays, ont réussi à lancer un missile balistique intercontinental, embarquant pour cet essai une bombe à hydrogène. Cette mission a été un grand succès.
Le 7 juillet, notre degré d'enrichissement ne sera plus de 3,67%. Nous mettrons cet engagement de côté. Autant que nécessaire, autant que nos besoins l'imposent, nous porterons cela au-dessus de 3,67%.
Nous avons demandé à l'Iran de ne pas prendre de nouvelles mesures qui compromettraient l'accord sur le nucléaire. Et nous l'exhorterons à cesser et à revenir sur ses activités qui sont contraires aux engagements pris dans ce cadre. Cela inclut la production d'uranium enrichi au-delà de la limite imposée par cet accord.
4 ans après la signature de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, qui ouvrait la voie à une normalisation des relations entre l'Occident et la République islamique, et laissait espérer un renoncement à toute ambition nucléaire militaire, retour à la case départ. Alors que Donald Trump a décidé de faire sortir les États-Unis de l'accord, Téhéran a repris l'accroissement de son stock d'uranium enrichi, et les tensions entre les deux pays ont de nouveau atteint des sommets cet été. L'Iran, malgré les multiples sanctions prises à son encontre, finira-t-il par acquérir l'arme atomique ? En tout cas, la question ne se pose plus pour la Corée du Nord qui annonçait il y a 2 ans, jour pour jour, rien de moins que son 6e essai nucléaire et qui continue depuis d'assembler des bombes malgré les efforts de l'actuelle administration américaine qui a rompu l'isolement diplomatique et qui voudrait bien obtenir la dénucléarisation de Pyongyang. Alors comment un pays pauvre, isolé sur la scène internationale a pu atteindre un tel objectif ? Qu'aurait-il fallu pour l'en empêcher ? Était-ce seulement possible ? L'échec de la communauté internationale face à la Corée du Nord offre-t-il des enseignements applicables à la situation en Iran ? Et d'ailleurs, comment expliquer que les programmes nucléaires de ces deux pays soient sous le feu des critiques alors que des pays comme l'Inde ou le Pakistan, pourtant frères et ennemis et très régulièrement en conflit direct, ont pu l'obtenir depuis plus de 20 ans sans provoquer de réaction diplomatique extraordinaire. Pour évoquer toutes ces questions, 2 invités. Antoine Bondaz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Directeur du programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po, auteur notamment de Corée du Nord plongée au cœur d'un état totalitaire. À vos côtés, Clément Terme, bonjour.
Bonjour.
J'allais dire du côté iranien, en tout cas spécialiste de l'Iran, vous Clément Terme, chercheur au Centre de Recherche International, le CERI Sciences Po, dans l'équipe Savoir Nucléaire. D'abord, il y a une première question que je voudrais vous poser à l'un et à l'autre. C'est la différence, au fond, de traitement de l'administration américaine entre l'Iran et la Corée du Nord. On a d'un côté un régime qui est la seule dynastie communiste au monde, Antoine Bondaz, avec qui on discute pour une dénucléarisation extrêmement improbable, qui vient d'effectuer à la mi-août un nouvel essai de missile dans l'indifférence assez générale, alors même qu'il y a quand même des résolutions onusiennes qui l'interdisent. Et on a de l'autre côté, Clément Terme, un régime qui est une théocratie avec un pouvoir bicéphale, qu'on sanctionne économiquement, que l'on pousse dans l'isolement diplomatique, alors même qu'elle ne possède pas la bombe et qu'on avait obtenu des engagements pour éviter sa dénucléarisation. Je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur la différence de traitement par l'administration américaine entre ces deux situations. Antoine Bondaz, on commence avec vous.
C'est une différence de traitement, mais c'est aussi une différence de stratégie de la part, par exemple, de la Corée du Nord. La Corée du Nord, dès l'élection du président Trump, considère qu'il y a une opportunité pour négocier sur le plan bilatéral, ce que la Corée du Nord a toujours voulu, avec les États-Unis, et surtout pour obtenir des concessions américaines qui étaient refusées jusqu'à présent par les administrations précédentes, que ce soit les administrations Clinton, Bush Junior et Obama. Lorsqu'on rencontre des diplomates de haut niveau nord-coréens, c'est le message qu'on a en 2017 et en 2018, celui d'une opportunité vis-à-vis du président Trump. Et ces diplomates nord-coréens ne se sont pas trompés, puisque en faisant des concessions extrêmement partielles, extrêmement cosmétiques, l'arrêt des essais nucléaires et l'arrêt des essais de missiles à portée intermédiaire et intercontinentale, ils ont obtenu en échange des concessions politiques de la part des États-Unis sans précédent, notamment ces trois fameux, ces deux fameux sommets à Singapour et à Hanoï et cette rencontre à Panmunjom il y a quelques mois.
Différence de stratégie et en même temps, peut-être pas tant que ça parce que on s'en souvient peut-être pas, mais avant la rencontre effectivement avec Kim Jong-un, une rencontre historique, il y a eu une pression extrêmement forte aussi sur la Corée du Nord. On se souvient des noms d'oiseaux qui avaient été lancés, Trump qui avait traité Kim Jong-un de Rocketman. Est-ce que d'une certaine manière, bah, précisément, la stratégie n'est pas la même du côté de l'Iran? On met la pression maximum et puis on va voir après.
Alors, je pense que du côté de l'administration Trump, la question iranienne était un peu particulière parce que c'est une promesse électorale du président Trump et l'ennemi c'est pas tellement l'Iran pour le président, hein, attention, c'est plutôt Obama. Quand il parle de l'Iran, il parle d'Obama. Il veut défaire le mauvais deal, etc. Il a une rhétorique qui est totalement en décalage avec la réalité. Il est totalement dans un monde parallèle sur les éléments du deal du 14 juillet 2015 et sur sa réalité. Donc il a toute une série de préjugés ou de d'idées qui sont fausses, mais il en est convaincu sur ce deal. Et donc défaire le deal, c'est défaire quelque chose que le président Obama a fait. Ça, c'est le premier point. La deuxième différence, c'est que sur la question iranienne, il y a un lobbying très fort à Washington, notamment au niveau du Congrès et de la Maison Blanche, de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Je pense que ce lobbying-là, du côté de la Corée du Nord, il existe au moins, puisque la question israélienne pour la Corée du Nord est moins importante que pour la République islamique. Et ça, c'est un élément très important. Et le dernier point, c'est que progressivement, au cours des premiers mois et des premières années de l'administration Trump, on a vu un retour en force de l'État profond américain et des néoconservateurs américains, comme John Bolton, qui, eux, sont carrément liés avec un groupe d'opposition qui s'appelle les Moudjahidines du Peuple, qui est une secte qui a longtemps été qualifiée de terroriste. Et ces personnages qui sont autour du président Trump, notamment le conseiller à la sécurité nationale ou l'avocat personnel du président Trump, ont été payés par ce groupe. Donc y a un narratif sur l'Iran qui est très particulier et qui est aussi lié à l'histoire, je dirais. Et le dernier point est le plus important, c'est l'héritage historique. Obama a pas pu tourner la page de la prise d'otage de 79, qui est un traumatisme dans l'imaginaire collectif américain. Et donc Trump a pu très facilement refermer la parenthèse Obama sur l'Iran et pour le coup là reprendre une politique plus traditionnelle des administrations américaines précédentes, qu'il s'agisse du début de la présidence Bush ou de l'administration Clinton.
Poursuivons sur l'Iran, on viendra évidemment à la Corée du Nord et puis de toute évidence il va y avoir des questions, des jeux de va-et-vient entre les deux situations. Est-ce que vous croyez, Clément Terme, encore à un dérapage? On se souvient que juste avant l'été il y avait eu cette séquence où un drone américain avait été abattu et où Donald Trump avait été à deux doigts réellement de lancer une attaque avec des avions de chasse, des navires qui étaient prêts à frapper des installations iraniennes. Il y a eu évidemment un certain nombre aussi de navires qui ont été attaqués dans le golfe Persique. Vous pensez qu'on est toujours dans une situation avec un dérapage possible ou est-ce que finalement c'est à exclure?
Alors la question c'est comment se présente la question iranienne à Washington. Et le fait est que certains comme John Bolton préfèrent une guerre, une confrontation militaire à une nucléarisation de l'Iran est très inquiétant. Donc c'est à un moment donné... Dans l'introduction, vous avez posé la question, est-ce que l'Iran aura la bombe? Est-ce que dans l'administration américaine, avec la fin de la parenthèse Obama, où là on voulait un compromis diplomatique, si on recherche pas ce compromis, est-ce que la politique de pression maximale peut conduire à une guerre? La réponse est oui, parce que l'Iran pense que Trump ne peut pas se permettre une guerre avant l'élection présidentielle américaine, et donc il le menace d'une guerre régionale. Donc c'est très dangereux, parce que en même temps Trump, il veut montrer que sa politique de pression maximale est plus efficace dans une compétition, encore une fois, avec l'ancien président Obama, que celle de l'administration démocrate précédente. Et en même temps, l'Iran veut le conduire dans un conflit s'il n'y a pas de bénéfice économique. Et on voit le président Macron et la France qui essayent de rejouer le rôle de Jacques Chirac en 2003. mais sans avoir en fait de capacité de souveraineté économique.
Alors justement, redisons un tout petit peu pour les auditeurs, il y a eu le G7 de Biarritz avec le président français qui a invité le chef de la diplomatie iranienne à venir, visiblement avec l'aval de Donald Trump. On a même là en ce moment une délégation iranienne qui est à Paris pour discuter. Il y a plusieurs questions. On va voir quelles sont les propositions de la diplomatie du Quai d'Orsay pour essayer d'arrêter cette escalade. Mais d'abord, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de se passer en médiateur? Raison au sens où il pourrait obtenir quelque chose, ou est-ce que vous n'y croyez absolument pas? On va voir les propositions, on va les détailler, mais vous pensez qu'il a raison de se passer en médiateur?
En fait, la question qui se pose sur cette médiation, c'est le décalage entre l'ambition et les moyens. L'ambition, c'est celle de redonner à la France son rôle qu'elle a eu en 2003, à l'époque de Jacques Chirac, avec une coalition avec l'Allemagne et la Russie à l'époque, avec un discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité qui était remarquable et qui est resté dans l'histoire. Mais le problème du président français, c'est que sa propre administration, le Quai d'Orsay, le ministère de la Défense, n'y croit pas. Et en plus, le Quai d'Orsay est aussi sensible aux pressions de l'Arabie Saoudite et d'Israël, qui sont des alliés de la France, donc, et qui s'opposent à ce rôle de la France. Parce que la question, en fait, sur le plan diplomatique, bien sûr qu'il a raison de souhaiter un apaisement et une désescalade, mais la question, elle est économique. Est-ce qu'il est prêt à payer le prix économique de sa médiation? Ou est-ce que, comme le pensent les conservateurs iraniens, il fait ça juste par ego? Ou pour montrer qu'il est différent de son prédécesseur, là aussi, et dans des comparaisons comme Trump avec Obama, comme François Hollande et Sarkozy, qui avaient fait évoluer la diplomatie française sur la question iranienne. Donc là, il y a une vraie question, et malheureusement, l'Iran n'a pas confiance dans la proposition française qui est d'offrir une ligne de crédit de 15 milliards, parce que cette ligne de crédit sera offerte soit par la Banque Centrale Européenne, soit par la Banque de France. Mais si John Bolton et les faucons américains décident de sanctionner ces entités économiques, elles pourront pas résister.
Et c'est permettre aussi une exportation d'un certain nombre de barils jour. Je crois que c'est 700 000 barils jour.
C'est ça. Mais ça, Total refuse d'acheter le pétrole iranien parce que c'est une entreprise globale et elle préfère suivre les injonctions de l'administration Trump plutôt que les conseils du président français. Donc c'est très inquiétant pour la souveraineté de la France et la souveraineté économique de l'Europe. Mais le problème, c'est qu'en s'affichant dans cette médiation, en creux, il révèle les faiblesses de la France et notamment cette absence de souveraineté qu'on a vu très vite avec le changement d'administration américaine. Le jour où l'administration Trump est arrivée, en quelques mois, toutes les entreprises françaises, ou la plupart, un grand nombre d'entreprises françaises et la plupart des entreprises européennes ont quitté l'Iran, alors que la position de la France et de l'Europe n'a pas changé. Donc on a déjà vu que le premier mécanisme qui a été proposé par l'Europe, Instex, est une coquille vide et ne fonctionne pas. Donc si vous voulez, la crédibilité, le problème de la médiation française, c'est pas tellement l'ambition ou les intentions qui sont louables, c'est plutôt sa crédibilité économique. Parce que le deal qu'a signé l'Iran, en échange d'une réduction de son programme nucléaire et d'un rétablissement de la confiance sur les intentions du programme, est de recevoir des dividendes économiques. Et c'est écrit dans l'accord sur le nucléaire. Donc la France, contrairement au dire du Quai d'Orsay, et je me réfère à une déclaration qui est publiée sur le site du Quai d'Orsay au mois d'août, ne respecte pas l'accord sur le nucléaire. Donc, du côté iranien, il y a un certain agacement vis-à-vis du président Macron, qui demande à l'Iran d'appliquer l'ensemble de l'accord sur le nucléaire, alors qu'il n'est pas en mesure d'imposer à ses entreprises...
Alors, pourquoi est-ce qu'ils acceptent les discussions, alors, les Iraniens, puisqu'ils sont agacés par Emmanuel Macron? Pourquoi ils acceptent la visite? Pourquoi ils font venir une délégation à Paris en ce moment même?
Parce qu'ils ont un double intérêt. Le premier intérêt, c'est vis-à-vis de l'opinion publique iranienne, pour montrer que la faute est du côté de l'Europe et des États-Unis, parce que l'opinion publique iranienne est favorable à la négociation, est favorable à la normalisation, et contre la confrontation, et a peur d'une guerre. Donc là, il y a un point important de communication à l'intérieur de l'Iran. Donc en montrant qu'on va jusqu'au bout, et en mon avis, l'idée, c'est de montrer que les 15 milliards n'existent pas. Et donc c'est très grave pour la crédibilité des réformateurs en Iran, parce qu'en voulant renforcer les réformateurs en Iran, c'est la stratégie du Quai d'Orsay, contre les plus conservateurs, le risque est de les décrédibiliser. Parce que s'il n'y a pas de récompense économique, eux, en interne, ils ont dépensé du capital politique. Et enfin, la stratégie iranienne, depuis les années 90, de ce groupe-là, des modérés et des réformateurs, c'est de diviser l'ennemi, entre guillemets. Donc de créer une opposition entre les États-Unis, donc ce que la République islamique appelle le grand Satan. Et là, je pense qu'il y a quand même une différence avec la Corée du Nord, dans le sens où l'idéologie est peut-être beaucoup plus forte dans la politique étrangère de la République islamique, et l'Europe. Donc l'idée, c'est d'enfoncer un coin, parce que si Macron va jusqu'au bout avec ses 15 milliards, le guide suprême, pourquoi il a autorisé la négociation? Parce que ça va diviser l'Occident. Parce que la France va devoir faire face à la réaction de John Bolton, qui va vouloir sûrement sanctionner la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne. Et donc ça va créer des conflit à l'intérieur du camp occidental. Et l'idée, c'est des réformateurs, c'est d'aboutir à un équilibre avec la stratégie asiatique. Mais le problème de Macron, c'est que dans le cas de la France et de l'Europe, c'est une tactique des institutions élues, alors que du côté asiatique de la diplomatie iranienne, c'est-à-dire la Russie et la Chine, c'est une stratégie de long terme. Donc Poutine, le président russe, a plus de chances de faire une médiation que le président Macron.
Antoine Mondaz, je voudrais peut-être votre réaction justement sur les limites de cette médiation française sur le dossier iranien, avant qu'on en vienne justement à l'état des lieux, voir où on en est des négociations après les rencontres historiques qui ont eu lieu entre Trump et Kim Jong-un sur la Corée du Nord.
Alors, l'appel au dialogue, il est toujours mis en avant, que ce soit par le Quai ou par l'Elysée, que ce soit sur la question iranienne ou la question nord-coréenne. Les leviers français sur la question iranienne, même s'ils sont limités, sont quand même bien plus importants que ceux sur la question nord-coréenne. Et c'est pour ça que généralement, sur la dimension nord-coréenne, la France décide d'avoir une position très européenne et que la France ne prend aucune initiative sur la Corée du Nord. L'idée étant que les Américains sont en première ligne, que les partenaires coréens sont en seconde ligne, sud-coréens, et que l'Europe est là pour appuyer les négociations, mais l'Europe n'est pas là pour négocier.
Parce qu'on a aussi aucun intérêt à défendre.
Alors, on a un intérêt fondamental qui est celui de la non-prolifération et de la stabilité régionale, qui est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'escalade dans la péninsule
coréenne. Ça n'a pas l'air d'être une priorité.
Ensuite, c'est celui de la non-prolifération, mais plus large, c'est-à-dire que la Corée du Nord ne prolifère pas vers d'autres pays. Mais évidemment, il n'y a pas du tout cette dimension économique qui peut y avoir avec l'Iran. L'Union européenne, à la fin des années 90, début des années 2000, la collectivité économique européenne avait des intérêts économiques. C'était le troisième partenaire commercial de la Corée du Nord, mais sur un volume d'échanges qui était extrêmement limité. C'était quelques dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, il n'y a plus de commerce entre l'Union européenne et la Corée du Nord. Le potentiel économique de la Corée du Nord, même si le président Trump le met en avant, est extrêmement limité. Et si demain vous avez une ouverture économique très très improbable de la Corée du Nord, elle bénéficiera surtout et avant tout à la Chine et à la Corée du Sud. Donc il n'y a pas d'intérêt économique et l'intérêt diplomatique est limité. C'est avant tout un intérêt de non-prolifération et de stabilité.
Même s'il se dit que la Corée du Nord se développe sans s'ouvrir, mais se développe énormément. Pyongyang a beaucoup changé.
Il y a une évolution évidente à Pyongyang et dans le reste du pays, et une réforme économique mise en avant notamment par Kim Jong-un.
Deux rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un, Singapour en juin 2018 et puis Hanoï en février dernier. Où est-ce qu'on en est très concrètement des discussions sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne ?
On n'a pas beaucoup avancé. Alors, pour faire un peu le fil rouge, Singapour, juin 2018, devait accoucher donc d'une déclaration avec quatre points clés. Le troisième point était en lien avec la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, je cite. Entre juin 2018 et janvier 2019, il n'y a eu aucune négociation. Les négociations ont repris en janvier 2019 au niveau des négociateurs, notamment Stephen Biegun, qui est le négociateur américain. 6 semaines de négociations qui ont débouché sur le sommet de Hanoï, qui lui-même n'a pas débouché sur un accord. Entre Hanoï et juin, pas de négociation. Et puis cette rencontre sur la DMZ, donc à Panmunjom, cette rencontre express entre le président américain et le dirigeant nord-coréen, lorsque Donald Trump s'est rendu symboliquement en Corée du Nord pendant quelques minutes. Et depuis, les négociations sont au point mort. Il y a des contacts entre les Nord-Coréens et les Américains, mais il n'y a pas vraiment de négociation pour parvenir à un accord. Et ça, c'est tout le problème, puisqu'il faut le rappeler que c'est la différence fondamentale.
Pas seulement au niveau politique, au niveau technique, on discute pas. Les experts ne discutent pas entre eux.
Alors, au niveau technique et au niveau des négociateurs, notamment Stephen Biegun, il y a un vrai problème de prise de contact avec les Nord-Coréens. Les Nord-Coréens n'ont toujours pas annoncé qui serait leur négociateur. Il a été pendant très longtemps, c'était Choi Soon-hui, qui est désormais la première vice-ministre des Affaires étrangères. Un deuxième négociateur avait été nommé, il a depuis disparu, notamment suite à l'échec de Hanoï. Il n'y a pas de négociateur officiel et les messages envoyés par la Corée du Nord sont clairs et sont de plus en plus clairs. Les négociations n'avancent pas. La Corée du Nord est de plus en plus en position de force, notamment puisque l'élection présidentielle américaine arrive et que Donald Trump n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un échec flagrant et ouvert, c'est-à-dire par exemple un essai nucléaire nord-coréen.
Tout à l'heure avec Clémentaire, on évoquait les efforts français pour se placer en médiateur. On pourrait là regarder ce que font les Chinois, par exemple. Xi Jinping est allé du côté de Pyongyang, c'était il y a quelques mois, je ne sais plus, au printemps peut-être. Ça faisait très longtemps que un président chinois n'était pas allé à Pyongyang. Comment l'interpréter ? Est-ce que c'était une manière de soutenir le régime en leur disant « vous inquiétez pas, ne vous engagez pas dans une quelconque négociation parce que de toute façon on vous soutient » Est-ce que au contraire c'était pour dire « allez-y, il va quand même falloir bouger parce que nous on veut bien vous soutenir mais ça a des limites » Enfin, qu'est-ce qui s'est dit et est-ce que la Chine peut obtenir des concessions de la Corée du Nord s'agissant de cette dénucléarisation ?
Alors c'est très intéressant puisque à l'heure à laquelle on se parle, le ministre des Affaires étrangères et le conseiller d'État chinois, Wang Yi, qui était, il y a 15 ans, le chef des négociations côté chinois avec la Corée du Nord, est en ce moment même à Pyongyang. Personne n'en parle en Europe et aux États-Unis, mais vous avez le ministre des Affaires étrangères chinois à Pyongyang en ce moment. La Chine n'a pas d'intérêt aujourd'hui à jouer les médiateurs comme elle avait pu le faire il y a 15 ans, dans les années 2000, à travers notamment ce qu'on appelait les pourparlers à 6, qui étaient accueillis et hébergés en Chine. La Chine aujourd'hui, elle est dans un contexte très particulier qui est celui de la guerre commerciale et de l'opposition croissante avec les États-Unis. Et la Chine considère, comme elle l'a toujours considéré, la Corée du Nord comme non seulement un État tampon, mais un État allié. Et ça, il faut vraiment le mettre en avant. Vous avez toujours aujourd'hui une alliance militaire qui date de 1961 entre la Chine et la Corée du Nord. Et le scénario actuel et la situation actuelle est dans l'intérêt de la Chine.
Ce contexte de guerre commerciale entre Washington et Pékin. On pourrait précisément penser que la question nucléaire nord-coréenne est un levier pour Pékin pour mettre un peu la pression sur Washington en disant faites des concessions sur la guerre commerciale parce que moi j'ai les moyens de tordre le bras au dictateur nord-coréen et ça vous permettra d'obtenir une belle victoire diplomatique sur la scène internationale. Enfin, c'est un deal qui pourrait se faire.
Alors,
Trump, c'est un homme de deal.
Le principal problème, c'est que les Chinois n'ont justement pas le moyen de tordre le bras des Nord-Coréens. Les deux pays sont vraiment dans une situation d'otage mutuel. La Chine a besoin que la Corée du Nord ne s'effondre pas. Et donc, la Chine ne peut pas mettre en œuvre de façon stricte les sanctions, notamment celles qui portent sur le pétrole. Et la Chine ne peut pas arrêter de soutenir la Corée du Nord. De l'autre côté, la Corée du Nord a besoin de la Chine pour ne pas s'effondrer. Et donc, vous avez une relation extrêmement complexe qui empêche la Chine de vraiment faire pression pour forcer la Corée du Nord à se dénucléariser. Et encore une fois, les intérêts de Pékin, ils sont clairs. Et la situation actuelle est bénéfique pour Pékin. Vous avez des discussions, donc moins de tensions, et le risque d'une guerre ou le risque d'un incident est extrêmement limité en ce moment. Deuxièmement, vous avez une Corée du Nord qui se stabilise, qui se réforme, et la Chine a toujours été claire, elle priorise une Corée du Nord nucléarisée mais stable à une Corée du Nord dénucléarisée mais instable. Et puis, plus largement dans la région, vous avez des différends entre la Corée du Sud et le Japon. Et ça, c'est un peu le lien avec l'Iran indirectement, de dire vous n'avez plus de front uni aujourd'hui en Asie et parmi les Occidentaux et leurs partenaires japonais et coréens, sud-coréens, sur la question nord-coréenne. Les Japonais et les Sud-Coréens sont incapables de coopérer et de discuter. Vous avez des tensions de plus en plus fortes entre l'administration Trump et l'administration Moon, c'est-à-dire entre Washington et Séoul. Et ça, c'est extrêmement bénéfique pour Pékin, puisque Pékin a toujours priorisé l'idée qu'il fallait éviter à tout prix une coopération trilatérale trop étroite, et notamment militaire, entre Washington, Séoul et Tokyo.
Donc en réalité, on a un statu quo qui est beaucoup plus enraciné du côté de la Corée du Nord que du côté de l'Iran, d'une certaine manière. Si on continue un peu le jeu de comparaison, Clément Terme, c'est vrai qu'avant la rencontre entre Trump et Kim Jong-un, personne n'envisageait que les deux hommes se croisent. Faisons une hypothèse complètement folle, Clément Terme. Trump qui rencontrerait le président iranien Hassan Rouhani, possible ou complètement fou ?
En fait, tout est possible en diplomatie, mais le problème avec l'Iran, c'est que le président iranien ne détient pas la réalité du pouvoir. J'en parlais dans les faiblesses de la médiation Macron, sa plus grande faiblesse, et que l'interlocuteur du président Macron, c'est le président Rouhani. Alors que l'administration Trump, sous l'influence des néoconservateurs américains, s'adresse directement au guide Khamenei. Et le guide Khamenei, lui, ne voyage pas à l'extérieur des frontières de l'Iran depuis 1989, quand il a terminé ses deux mandats à la présidence de la République islamique avant de devenir guide. Donc, Le problème, c'est que M. Trump devrait se rendre en Iran pour rencontrer M. Khamenei, par exemple, dans la maison de l'ayatollah Khomeini.
Peut changer. Kim Jong-un sort assez rarement de Pyongyang. Pourtant, il l'a fait pour rencontrer Donald Trump.
Donc, il ne sort jamais. C'est sa fonction, c'est le représentant de l'imam. C'est une théocratie, c'est le représentant de l'imam sur Terre. Donc, c'est pas au sens strict dans les relations internationales le chef de l'État, mais c'est le véritable chef, si vous voulez. Donc là, il y a une différence, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il parle avec une autorité religieuse qui fait de l'anti-occidentalisme l'identité de son régime. Et ça va très loin, parce que c'est un régime clérical. Souvent, on compare d'ailleurs avec l'idéologie marxiste, mais dans le marxisme, il n'y a pas de Dieu. Donc c'est plus facile, finalement, d'avoir une évolution en Chine, par exemple, ou même peut-être en Corée du Nord, que je ne connais pas, qu'en Iran, parce que on ne peut pas changer Dieu. Donc là, il y a un blocage de la théocratie iranienne et d'un corps social qui est le clergé chiite, qui soutient la théocratie. Donc le clergé officiel, lui, ça fait partie de son ADN, si vous voulez, de crier mort à l'Amérique, mort à Israël. Et là, par exemple, la destruction d'Israël fait partie de l'identité de la République islamique. Donc je vois très mal le guide suprême, qui, depuis quand même une trentaine d'années, a fait de l'anti-américanisme son principal cri de ralliement pour ses propres clientèles, se désolidariser et changer de discours à un moment où le régime est menacé. Le risque est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la politique de pression maximale de l'administration Trump décrédibilise l'offre de rencontre, parce que c'est ce que disent les pragmatiques en Iran. Rencontrer le président Trump alors qu'il est en train de rendre le pays pauvre n'a aucun sens, parce que il confond en fait un projet de démocratisation de l'extérieur, ce qu'ils appellent transformer l'Iran en pays normal entre guillemets dans leur catégorie, répandant la pauvreté en Iran et en appauvrissant la population. Et malheureusement, quand on appauvrit une population, on la rend plus dépendante du régime autoritaire. Et donc là, on a un phénomène, en fait, d'affaiblissement des classes moyennes qui migrent vers l'Occident. Et donc, c'est l'échec de la politique américaine. C'est pour ça qu'Obama avait changé de politique. Il avait fait cette analyse, l'administration précédente avait tiré les leçons, finalement, de l'échec et des effets négatifs de cette politique. Donc, je vois pas un sommet Trump-Khamenei dans les prochaines semaines. Mais c'est pour ça que la déclaration du président Macron après le G7 était un peu étrange.
Et Pompeo, il avait dit qu'il avait
créé les conditions, quasi, le président français. On aurait dit qu'il était mal conseillé.
Et Mike Pompeo, il pourrait y aller. Il a dit qu'il était prêt à aller à Téhéran.
Oui, mais ça, c'est parce que, en fait, le ministre des Affaires étrangères, Zarif, s'exprime à la télé américaine. C'est dans la guerre de propagande que se livrent les deux pays. Ce qui gêne cette administration, c'est que, comme les États-Unis sont une démocratie, les représentants du régime iranien peuvent s'exprimer à la télé américaine. Et lui, il voulait s'exprimer à la télé iranienne pour s'adresser directement au peuple iranien.
Antoine Bondaz, Clément Terme disait, dans le marxisme, disait-il, il n'y a pas de divinité. Est-ce que précisément, en Corée du Nord, et je vous voulais réagir, je vous laisserai, mais est-ce que précisément en Corée du Nord, la force nucléaire n'incarne pas une forme de divinité? Je veux dire, voilà, faut aussi peut-être évoquer la question de ce que représente le nucléaire dans l'identité de la Corée du Nord, qui est un pays qui en réalité existe depuis très peu.
Alors c'est fondamental, l'arme nucléaire n'est pas une divinité, ça c'est Kim Jong-un, par contre l'arme nucléaire est un outil au service du régime et entre les mains des Kim Jong-un. Et ça, c'est fondamental. Et les armes aujourd'hui nucléaires en Corée du Nord, elles ont un aspect purement militaire, c'est-à-dire accroître les capacités de dissuasion du régime, même si vous aviez des capacités de dissuasion conventionnelles qui existaient déjà. On parle souvent de l'artillerie, par exemple, qui est à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Séoul et de la mégalopole de Séoul, qui rassemble quand même, il faut le rappeler, 25 millions de Sud-Coréens. Mais vous avez aussi cette dimension politique. Et les armes nucléaires, depuis les années 90 et depuis l'officialisation d'un programme en 2005 et le premier essai en 2006, il est de mettre en avant cette dimension politique. C'est ce qui explique notamment la réforme de la Constitution en 2012 qui a inscrit dans la Constitution le statut de puissance nucléaire. Et pour la Corée du Nord, c'est extrêmement important. Cela permet premièrement de renforcer le caractère héréditaire du régime. L'arme nucléaire, c'est un programme initié sous Kim Il-sung, transmis à son fils Kim Jong-il, et développé et finalisé par Kim Jong-un. Et lorsqu'en novembre 2017, suite à l'essai nucléaire de septembre et surtout à l'essai d'un missile intercontinental en novembre, Kim Jong-un déclare qu'il a finalisé le processus de dénucléarisation débuté en réalité par son grand-père.
Donc vous de dénucléarisation.
Donc vous renforcez ces dimensions héréditaires et ces dimensions dynastiques. Ensuite, vous permettez à Kim Jong-un de dire à la population sud-coréenne, à la population nord-coréenne, pardon, qu'il défend la patrie, qu'il défend l'identité coréenne, et cela permet de concrétiser ce que en Corée du Nord on appelle le Juche, qui est cette idéologie de l'autonomie et de l'indépendance, qui en réalité se construit après des siècles d'influence chinoise et des décennies d'occupation, de colonisation japonaise. Et puis vous mettez en avant les caractéristiques techniques et scientifiques du régime, et on l'a vu dans les derniers essais balistiques nord-coréen, ce qui est mis en avant, ce sont les chercheurs, de dire la Corée du Nord est une puissance scientifique. Et ça, ça rejoint aussi la nécessité pour Kim Jong-un de convaincre la population et les élites qu'il a fait les bons choix, notamment sur les dimensions économiques et scientifiques. Et si je peux rebondir très rapidement sur la différence avec l'Iran, c'est cette question de l'anti-américanisme. Le régime nord-coréen s'est construit initialement non pas sur l'anti-américanisme, mais sur l'anti-japonisme. C'est-à-dire que la Corée du Nord a sa légitimité, la République populaire et démocratique de Corée, dans la lutte contre l'occupation japonaise, et donc ensuite dans la création de cette République. L'anti-américanisme vient après, pendant la guerre de Corée. Et ça, ça permet une certaine flexibilité stratégique des négociateurs nord-coréens. Vous pouvez être très anti-américain, et puis quand vous avez besoin de négocier, mettre ces critiques de côté, tant que vous continuez à critiquer le Japon. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Le deuxième point, c'est que la rencontre avec Donald Trump avait un intérêt en tant que tel. Un intérêt pour légitimer Kim Jong-un, montrer que contrairement à son grand-père, contrairement à son père, il est capable de rencontrer le dirigeant américain, qui est pourtant censé être la menace principale. Deuxièmement, ça permet de légitimer le programme nucléaire. En fait, l'argument à Pyongyang, quand vous y êtes, c'est que Donald Trump aurait-il rencontré Kim Jong-un s'il n'avait pas eu de programme nucléaire et s'il n'avait pas eu une capacité nucléaire opérationnelle et relativement crédible? Non. Et le troisième point, troisième argument des Nord-Coréens, c'est justement de légitimer l'argument de ces armes nucléaires permettent d'apporter une stabilité régionale. Et cette stabilité régionale nous permet de nous concentrer sur la dimension économique. Alors, il y a toujours des sanctions, mais la baisse des tensions permet de dépenser moins d'argent pour faire des exercices militaires, permet de reconcentrer une partie de la main-d'œuvre militaire sur des projets d'infrastructures et, in fine, permet d'améliorer le niveau de vie de la population. Et ça, c'est un argument qui est vraiment mis en avant par Pyongyang.
Je voudrais qu'on évoque dans un instant, évidemment, le traité de non-prolifération avec, évidemment, des différences de posture très claires puisque l'Iran est membre a signé le TNP. La Corée du Nord l'avait d'abord signé et puis ensuite s'en est retiré. Mais il y a un point, en vous entendant, sur lequel je voudrais vous entendre, Antoine Bondaz. J'ai parfaitement compris que la perspective d'une dénucléarisation de la péninsule est assez peu probable. Est-ce que la rencontre avec Trump, est-ce que les négociations, en tout cas les discussions, même si elles n'aboutissent pas à grand-chose, entre les Nord-Coréens et les États-Unis, ont provoqué quelque chose dans le dialogue intercoréen? Je veux dire, est-ce que au moins ça permet d'améliorer les relations entre Pyongyang d'un côté et Séoul de l'autre?
Les relations intercoréennes ont toujours été, il faut être très honnête, la variable d'ajustement. Les relations intercoréennes ont permis la rencontre avec Donald Trump. C'est parce que le président sud-coréen a tendu la main aux dirigeants nord-coréens, parce que la Corée du Nord a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, parce que vous avez eu ce sommet entre le dirigeant nord-coréen et le président Moon Jae-in en avril 2018, que la rencontre, que le contexte politique a permis à la rencontre Trump-Kim Jong-un de se faire.
Mais depuis la rencontre, est-ce que les choses s'améliorent ou...
Voilà, donc la dynamique intercoréenne a été extrêmement positive pour permettre cette rencontre. Mais l'argument des Nord-Coréens et la stratégie des Nord-Coréens, elle est claire. À quoi sert la Corée du Sud aujourd'hui? À rien. La Corée du Sud a eu un rôle fondamental pour entraîner une certaine dynamique et permettre ce rapprochement avec les États-Unis. Aujourd'hui, la Corée du Sud n'a pas de marge de manœuvre. S'il faut lever les sanctions, les Sud-Coréens ne peuvent pas le faire. Or, ce que veut la Corée du Nord, c'est soit des garanties de sécurité, soit la levée des sanctions économiques. Et là, le gouvernement sud-coréen ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que depuis plusieurs mois, vous avez vraiment un assèchement des discussions et des négociations intercoréennes pour une raison simple. C'est que Kim Jong-un n'a aujourd'hui plus rien à obtenir du président Moon Jae-in. Et donc, vous avez de fait une raréfaction de ces rencontres intercoréennes.
Clément Terme, je le disais, l'Iran a signé le traité de non-prolifération de 1968. Est-ce que Téhéran pourrait décider de sortir? Et est-ce que c'est un levier sur lequel les autorités iraniennes jouent ou c'est pas un sujet?
Si, ils ont beaucoup joué sous l'administration Ahmadinejad, où il y avait une stratégie de la tension permanente, puisque l'Iran dit que ses droits ne sont pas respectés. Il accuse l'Occident et les grandes puissances dotées de l'arme nucléaire d'un déni de technologie. C'est-à-dire, c'est ce que le guide suprême appelle l'apartheid technologique. C'est-à-dire que la France maîtrise les technologies nucléaires, le Japon, les États-Unis, la Russie, la Chine, et ne souhaite pas que de nouveaux États les maîtrisent, parce qu'il y a une ambiguïté dans le programme nucléaire iranien. Parce que la maîtrise des technologies du nucléaire civil peut conduire à un moment donné à une décision de passer à la militarisation du programme. Dans le cas de l'Iran, l'ambiguïté s'explique parce que le programme a été lancé dans les années 50 dans le cadre de l'alliance avec les États-Unis à l'époque du Shah, donc de la monarchie, du régime précédent.
Il faut bien avoir en tête qu'en réalité, à l'époque, les États-Unis soutenaient, étaient des partenaires technologiques
c'est
de l'Iran.
C'est même les initiateurs. C'était le programme Les Atomes pour la Paix du président Eisenhower, en 1955. Et ensuite, dans les années 70, le Shah avait transformé son pays en grande puissance régionale. Et donc, les États-Unis, à l'époque, se préoccupaient déjà de cette question de la prolifération nucléaire, et la France beaucoup moins. Donc c'était la France et l'Allemagne qui, voyant le refus des États-Unis de transférer déjà les technologies d'enrichissement de l'uranium, c'était le commissariat à l'énergie atomique, donc le CEA, ça peut paraître aujourd'hui presque ironique de dire ça, qui avait développé des coopérations nucléaires très poussées avec l'Iran et qui donnait au régime du Shah toutes les technologies d'enrichissement de l'uranium. Et on avait aussi le projet de construire deux centrales nucléaires en Iran. Et donc là, on voit que la France a changé de politique sur la prolifération nucléaire de manière globale, sur le plan de l'idée que finalement les technologies du nucléaire civil ne peuvent pas s'appliquer sur le plan militaire. C'était un peu l'argument français à l'époque. Il y a eu une évolution, mais c'est surtout le changement de régime qui a provoqué le changement de position de la France. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moment de la révolution, le programme a été interrompu parce que l'ayatollah Khomeini et ses partisans ont considéré que tout ce qui avait été fait à l'époque par la vie, et ça c'est contraire à ce que beaucoup de chercheurs affirment, notamment Nicolas Roche, qui est un membre éminent de l'administration française et qui a écrit des livres sur le sujet, les mollahs ont interrompu le programme. Et parce qu'ils disaient c'était du gaspillage d'argent à l'époque du Shah. Mais au moment où il y a la guerre Iran-Irak, et c'est pour ça qu'il y a cette ambiguïté originelle, en 1984, l'Iran reprend ce programme de technologie nucléaire. C'est comme ça qu'il est nommé en Iran. Et c'est un point commun avec la Corée du Nord de faire de l'Iran une puissance scientifique. Et c'est ça, je pense, qui fait peur, parce que c'est la maîtrise des technologies. Et ça, c'est l'ambiguïté, pour le thème de l'émission, du traité de non-prolifération. Parce que les États dotés s'engage à transférer les technologies vers les États non dotés. Et c'est là où l'hypocrisie des États dotés est immense. Parce que, en mettant sur la question des intentions et de la confiance, en droit international, les arguments des États dotés sont assez faibles. Parce que l'Iran, en signant l'accord sur le nucléaire, peut appliquer le protocole additionnel du traité de non-prolifération, donc des inspections poussées. L'Agence internationale de l'énergie atomique dit qu'elle a toujours accès aux sites iraniens. Donc il est sous contrôle international, ce programme nucléaire, depuis 2002, et les révélations qui ont conduit à cette crise de confiance entre l'Iran et la communauté internationale. Mais je pense que ce qui est intéressant sur le plan de l'exemple de l'Iran, c'est qu'il y a une perception en Occident particulière du programme nucléaire iranien du fait de la nature du régime de la République islamique. Et c'est un non-dit, si vous voulez, de la position juridique des pays dotés de l'arme nucléaire.
Antoine Mondaz, vous nous rappelez en quelques mots comment la Corée du Nord a fait pour obtenir la bombe? Quels sont les pays qui l'y ont aidé?
Alors, la Corée du Nord, premièrement, a une relation, et la République populaire démocratique de Corée, a une relation très particulière avec la bombe, ce qui est très différent de l'Iran, je pense, sans être un spécialiste de l'Iran. Premièrement, vous avez énormément de Coréens qui sont morts dans les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Et que du point de vue coréen, que ce soit à l'époque le Nord comme le Sud qui n'existait pas, la bombe nucléaire a permis de mettre fin, de fait, à la colonisation japonaise de la péninsule. Le deuxième point, c'est que pendant la guerre de Corée, donc entre 1950 et 1953, les Américains ont menacé à plusieurs reprises d'utiliser des armes nucléaires contre la Corée du Nord. Et donc les Nord-Coréens ont toujours intégré, que ce soit sur la stratégie militaire ou politique, l'arme nucléaire comme un facteur fondamental d'autonomie stratégique et autres. Donc, dès les années 50, vous avez un premier programme nucléaire nord-coréen. Les premières mines d'uranium, d'ailleurs, ont été creusées par les Japonais pendant la colonisation. Et donc, vous avez un processus de nucléarisation du pays qui se fait à l'époque de façon très lente, puisqu'il y a très peu de transferts de technologie, que la Corée du Nord a d'autres priorités, qui sont notamment la reconstruction du pays suite à la guerre, encore une fois, de Corée. Et ce programme va s'accélérer dans les années 90, notamment puisque les enjeux de sécurité...
Alors même qu'on vient de signer le TNP.
Exactement, et que la Corée du Nord l'a signé, à la fin des années 80.
Quand je dis 11, c'est la Corée du Nord, 83.
Avec la pression notamment de l'URSS à l'époque. Et la Corée du Nord voit son environnement stratégique complètement bouleversé. L'effondrement de l'URSS, la perte du soutien soviétique, la Chine qui cesse son aide économique à la Corée du Nord. La Corée du Nord qui est alors isolée, puisque la Corée du Sud elle-même établit des relations diplomatiques avec la Russie en 91, avec la Chine en 92. La Corée du Nord se retrouve isolée dans la région, extrêmement affaiblie, dans une situation de crise politique, économique, stratégique, et donc accélère son programme. C'est ce qui débouche sur la première crise nucléaire de 93 et 94, et avec un premier accord, à l'époque, entre les États-Unis et la Corée du Nord, l'accord de Genève, signé en 94. Cet accord prévoyait qu'en échange de la non-nucléarisation du pays et de la fin de son programme militaire, la Corée du Nord recevait une aide, notamment énergétique, de la part des États-Unis, est alors créé ce qu'on appelle l'Organisation de coopération pour le développement de la péninsule coréenne, et là, notamment, l'Union européenne à l'époque a un rôle à jouer puisqu'elle a cofinancé à hauteur de 2-3% ce programme.
Vous n'avez pas répondu, Antoine Mondaz, à ma question. Quels sont les pays? On dit, je vais le dire directement, que le Pakistan, par exemple, a aidé largement la Corée du Nord et que sans le Pakistan, il n'y aurait pas la bombe aujourd'hui à Pyongyang.
Vous avez vraiment cet effort national qui est extrêmement, vraiment sur le long terme et qui dure depuis plusieurs décennies. Et puis, vous avez eu une prolifération, de fait, de certains réseaux clandestins, notamment le réseau Khan, qui est ce scientifique pakistanais, qui est un des pères de la bombe pakistanaise, qui a évidemment et effectivement transféré des technologies vers la Corée du Nord, et se pose aujourd'hui également des questions de prolifération sur une partie du programme balistique nord-coréen.
Alors justement, on va glisser du côté du Pakistan et de l'Inde. Je rappelle quelques éléments d'actualité. Début août, le Premier ministre indien Narendra Modi mettait le feu aux poudres en décrétant la fin de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire indien. L'annonce a immédiatement ravivé les tensions régionales avec le Pakistan, évidemment. Quelques jours plus tard, on a le ministre indien, toujours de la Défense, qui évoquait la possibilité de remettre en question la doctrine adoptée par le pays de non-recours en premier de l'arme atomique. De quoi voir se dessiner le spectre d'une guerre nucléaire entre les deux voisins pour les uns, signe au contraire d'une politique de dissuasion crédible et très efficace pour les autres. Bonjour Alain Dambal. Lamballe, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes général, vous êtes spécialiste de l'Asie du Sud. La question du Cachemire, elle existe depuis toujours, en tout cas depuis la création des deux pays en 1947, en suspendant ce statut spécifique du Jammu et Cachemire. Narendra Modi savait qu'il allait provoquer une crise politique très importante, ça n'a pas manqué. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a appelé à manifester, il a appelé à se battre pour la libération du territoire. Comment est-ce que vous comprenez à la fois la décision du Premier ministre indien et puis aussi les risques qu'il y a derrière, et en particulier les risques nucléaires, puisque c'est la question qu'on se pose ce matin à la Lamballe?
Oui, alors la décision de Narendra Modi de supprimer l'autonomie du Cachemire... vous m'entendez?
Je vous entends très bien.
Oui, la décision de Narendra Modi... de supprimer l'autonomie du Cachemire est tout simplement ce qui avait été annoncé dans le manifeste électoral du parti de Narendra Modi, le BJP. Donc il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là.
Engagement de campagne.
En ce qui concerne le risque de guerre entre les deux pays, je crois qu'il est relativement limité. Sauf si des attentats majeurs se produisent au Cachemire ou dans le reste de l'Inde, attentats majeurs qui seraient attribués au Pakistan ou à des mouvements basés au Pakistan. Mais ça ne veut pas dire pour autant que s'il y a un conflit qui sera majeur, Et encore moins, ça ne veut pas dire que le conflit débouchera sur des échanges nucléaires. Je n'y crois absolument pas.
D'autant que, Alain Lamballe, les deux pays respectent officiellement, en tout cas, cette doctrine selon laquelle on ne frappe pas en premier. C'est cette doctrine du non-recours en premier de l'arme nucléaire qui a été qui est vraiment officielle, qui a été officialisée à la fin des années 90, dès l'instant où l'un et l'autre, l'Inde et le Pakistan, ont eu l'arme nucléaire. Justement, le ministre indien a dit qu'il pourrait remettre en question cette doctrine-là. Vous pensez que c'est possible ou c'est de la pure communication, c'est une manière de mettre la pression sur le Pakistan?
Alors, d'abord, le Pakistan admet la doctrine d'emploi en premier de l'arme nucléaire. Il s'est doté à cet effet d'armes nucléaires tactiques. On ne voit pas très bien d'ailleurs comment il pourrait utiliser ces armes nucléaires tactiques, si ce n'est sur son propre territoire. Ces armes ne pourraient être utilisées qu'en cas d'avancée majeure des troupes indiennes au Pakistan, et à ce moment-là, évidemment, le Pakistan serait obligé de tirer sur son propre territoire. Par ailleurs, des frappes sur des cités indiennes sont totalement exclues, ou même des frappes contre des forces indiennes sur le territoire indien sont exclues. Jamais dans le passé, les deux belligérants se sont attaqués à des cibles civiles. C'était dans une certaine mesure une guerre de gentlemen. Et je crois qu'à l'avenir, il est exclu que des armes nucléaires soient utilisées de cette manière contre des civils. Alors du côté indien, les Indiens, effectivement, avaient comme doctrine de ne pas utiliser en premier l'arme nucléaire, ce qui se comprend très très bien face au Pakistan, puisque le Pakistan est inférieur, militairement parlant, à l'Inde sur le plan conventionnel. Par conséquent, il n'a absolument pas besoin de l'Inde, n'a absolument pas besoin de recourir à l'arme nucléaire pour se défendre face à une éventuelle agression pakistanaise. Par contre, en revanche, le problème est tout à fait différent à l'égard de la Chine. On comprend très très mal cette doctrine de non-utilisation en premier de l'arme nucléaire face à la Chine. Alors, en réalité, il faut comprendre que Narendra Modi, en fait, utilise la situation actuelle pour réviser, peut-être, c'est pas encore décidé, sa doctrine nucléaire, de façon à éventuellement faire face à la Chine. Car en réalité...
D'accord, donc c'est un message à Pékin, en réalité.
Concerne essentiellement la Chine.
Donc c'est en réalité un message à Pékin qu'on glisse depuis Delhi. Général Lamballe...
C'est un message à Pékin, absolument, de manière indirecte.
Le principe de la dissuasion, c'est de dire que la possession d'armes nucléaires a pour effet de maintenir la conflictualité sous un certain seuil, puisque chacun sait pertinemment qu'en cas d'attaque, les pertes mutuelles seraient colossales. Dans le cas de l'Inde et la Chine, est-ce qu'on peut postuler l'hypothèse selon laquelle, bien s'il n'y avait pas la bombe nucléaire de part et d'autre de la frontière, les conflits autour du Cachemire, qui sont réguliers depuis 1947, auraient été bien plus meurtriers? Pour le dire autrement, et de façon peut-être un peu provocante, est-ce que la dissuasion nucléaire sauve des vies au Cachemire?
Non, on ne peut pas dire que la dissuasion nucléaire sauve des vies au Cachemire. Le conflit du Cachemire perdurera, c'est absolument évident. La Chine, d'ailleurs, est partie prenante à ce problème du Cachemire, puisque, vous le savez, elle a acquis, dans les années 1950, une partie de l'Axe-Chine, qui est cette partie nord-est du Cachemire, et grâce à un accord avec le Pakistan en 1963, elle a acquis une partie dans le nord du Cachemire. Un conflit nucléaire est également peu envisageable entre la Chine et l'Inde, et un conflit tout court, conventionnel, est également fort peu envisageable entre ces deux grands pays asiatiques.
Donc vous ne pensez pas finalement que la dissuasion nucléaire permet de garder la conflictualité autour du Cachemire sous un certain seuil?
Non, je crois qu'il y aura toujours une insurrection interne au Cachemire, elle est d'origine locale incontestablement, mais cette insurrection interne est soutenue par le Pakistan et par des mouvements qui sont basés au Pakistan. Et ceci continuera. Le seuil nucléaire est, peut-être ne sera pas franchi, à mon avis. D'ailleurs, on s'en est bien aperçu lors du problème du Cachemire en 1999. Il y a eu un conflit, mais qui est resté limité. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait, en cas d'attaque terroriste attribuée au Pakistan, qu'il y ait des représailles indiennes, des contre-représailles pakistanaises, mais ça restera, à mon mon avis, est très très limitée et il n'y a pas de risque de conflit majeur, ni conventionnel, ni a fortiori nucléaire.
Alain Lamballe, toute dernière question. L'Inde, et revenons un tout petit peu en arrière, l'Inde a réalisé son premier essai nucléaire en 1974 et puis officiellement elle renonce à son programme, elle reprend les recherches, elle refait des essais en mai 1998, ce qui lui permet d'avoir la puissance nucléaire, et de son côté c'est quelques jours plus tard, hein, toujours en mai 1998, que le Pakistan lui aussi fait ses essais et devient donc une puissance nucléarisée. Ces deux pays ne sont pas signataires du traité de non-prolifération. Vous pouvez nous rappeler à l'époque ce que la communauté internationale avait dit de tout ça ? Il y avait eu des efforts déployés pour empêcher la nucléarisation de ces deux pays ?
Non, il y avait eu des efforts qui avaient été déployés par les Américains en ce qui concerne le Pakistan. Mais en réalité, ils n'ont pas été efficaces, on le voit bien. En réalité, si le Pakistan a procédé à des essais nucléaires peu après, quelques jours après les essais indiens, ça veut dire que le Pakistan préparait cette bombe nucléaire depuis fort longtemps, et l'Inde aussi, bien évidemment, puisqu'elle avait procédé, comme vous l'avez dit, à des essais dès 1974. Cette prolifération nucléaire joue son rôle, et elle jouait en fait son rôle bien avant les essais officiels de 1998.
Antoine Bondaz, Clément Terme, réaction peut-être avant de clore cette émission, quand j'entends tout ça et au regard des échanges qu'on a eus depuis une cinquantaine de minutes maintenant, finalement le TNP de 1968, il a servi à rien ou pas grand-chose, Antoine Bondaz?
Alors, il a quand même évité, il y a un des fameux discours de Kennedy qui prévoyait dans les années 60 qu'à l'horizon 20-30 ans, il y aurait peut-être 20-30 puissances nucléaires militaires. En réalité, le nombre a été réduit. Alors, est-ce que c'est grâce au TNP? Est-ce que c'est grâce aux garanties de sécurité fournies par les Américains à certains de leurs alliés? Est-ce que c'est du fait du coût prohibitif d'un programme nucléaire, que ce soit un coût purement économique ou un coût en termes d'opportunité, c'est-à-dire que des sanctions économiques augmenteraient considérablement le coût d'un programme? Je pense que la question est difficile. Ce qui est vraiment important, c'est que le TNP reste un traité important dans un contexte où, vous en parliez hier, on a l'effondrement, en réalité, des quelques accords qui existaient, notamment des accords de contrôle des armements. Et c'est la question qui, aujourd'hui, va se poser avec la Corée du Nord. La dénucléarisation étant impossible à très court terme, même si ça reste un objectif politique, que faire des capacités nord-coréennes? Et est-ce qu'il y a un moyen de limiter ces capacités sans, toutefois, les faire disparaître de façon utopique?
Clément Terme, un bilan du TNP en 40 secondes.
Je dirais, sur le cas de l'Iran, par rapport au TNP, l'Iran est membre fondateur 68, ratifié en 70. L'Iran n'est jamais sorti du TNP en dépit des menaces. Et la bombe iranienne a été annoncée en Occident depuis le début des années 90, sans jamais qu'elle devienne une réalité. Donc au contraire, le cas de l'Iran montre, et l'accord de 2015 signé par le président Obama, montre qu'on peut même aller au-delà du TNP et qu'on peut demander à un pays qui a des ambitions nucléaires, de souveraineté nucléaire, malgré les ambiguïtés du traité qui peut permettre l'acquisition d'une capacité nucléaire, d'être un état du seuil comme le Japon, peut entraîner ces pays-là à renoncer à la bombe tout en ayant gardant la capacité. Et c'est cette ambiguïté, mais en même temps, il y a des états dotés, donc je dirais que c'est un moindre mal. Like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air.
Merci à nos invités, Alain Lamballe qui était à l'instant avec nous par téléphone, Antoine Bondaz, Clément Terme, je rappellerai notamment Corée du Nord plongée au cœur d'un état totalitaire aux éditions du Chêne pour vous Antoine Bondaz, Clément Terme, allez Iran, Arabie Saoudite, une guerre froide, c'était chez l'Armatan, et puis aussi une histoire des relations russo-iraniennes, j'ai plus le titre exact mais c'était à peu près ça, hein, Clément Terme. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. On poursuivra évidemment nos pérégrinations nucléaires demain. Pour l'heure, Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous parlez d'un pays qu'on connaît quand même assez peu, c'est l'Albanie à travers un roman, Brice?
Oui, dans un de ses précédents livres, l'écrivain albanais Gazmend Kaplani racontait cette blague qui court dans le milieu de ses compatriotes émigrés comme lui en Grèce. Un Américain, un Français, un Grec et un Albanais se retrouvent au sommet de la Tour Eiffel. « Jetez ce que vous estimez avoir en trop », leur conseille leur guide. L'Américain jette une liasse de dollars, le Français une bouteille de champagne. Convenu, vous me direz, l'Albanais, lui, se tourne vers le Grec et lui dit « Toi, je sais très bien à quoi tu penses ». Il y a beaucoup d'Albanais en Grèce et ils n'ont pas très bonne réputation. Faites cette expérience que j'ai faite moi-même. Allez déclarer un vol quelconque dans un commissariat grec. Avant que vous ayez commencé à parler, on vous dira « bien sûr, c'était un Albanais ». D'un côté, les humiliations de l'immigré, la méfiance et le rejet auxquels s'expose l'étranger venu d'un pays plus pauvre. De l'autre, les nostalgies de l'exilé, le déchirement intime de celui qui a jugé impossible la vie dans le pays de ses parents, mais que tourmente le sentiment d'avoir abandonné sa patrie. Tels sont les thèmes de tous les livres de ce formidable conteur à découvrir, Gasment Kaplani, un écrivain albanais donc. Dans son dernier livre, traduit en français, « Le pays des pas perdus », cette tension entre l'appel de l'ailleurs et la nostalgie des origines est incarnée par deux personnages, deux frères, qui se retrouvent en Albanie à l'occasion de l'enterrement de leur père. Vous avez d'un côté Frédéric, lui, il a fait le choix de rester au pays malgré tout, parce que sa sagesse lui enseigne à privilégier le bon côté des choses et à se satisfaire de ce qu'il a sous les yeux. Il pense que l'on ne peut bien vivre qu'à l'intérieur de certaines limites, qu'elle soit géographique ou morale, et que lorsqu'on les franchit, eh bien on se perd soi-même et on ne sait plus qui l'on est. Son frère, Karl, qui est le double transparent de l'auteur, a comme ce dernier profité de l'ouverture des frontières pour fuir ce pays aberrant, l'Albanie. Kaplani lui-même avait 24 ans lorsqu'il a passé la frontière grecque. Il venait de participer avec des milliers d'étudiants albanais au renversement symbolique et à la destruction de la statue du dictateur local. Certes, Enver Hoxha était mort depuis un quart de siècle alors, mais son ombre portée continuait à terroriser la population. Kaplani a mangé de la vache enragée en Grèce, mais il s'y est établi. Doué pour les langues, il avait appris le français et l'italien pour pouvoir écouter en cachette ses radios étrangères. Il a passé un doctorat de philosophie en Grèce et il est devenu un écrivain connu dans ce pays. Il signe d'ailleurs deux fois par semaine un éditorial très commenté dans le plus grand quotidien de gauche grec, Tanea. Mais comme le héros de son roman, Kaplani a cependant dû fuir aux États-Unis après avoir été battu et menacé de mort par les néo-nazis d'Aube Dorée. Il avait eu l'audace de mettre le nez dans l'histoire pas très propre de massacres commis par la soldatesque grecque parmi les minorités albanaises au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, le pays des pas perdus, c'est un roman autobiographique, mais outre un condensé évidemment des expériences vécues par son auteur, c'est aussi un livre dans lequel on découvre plein de choses sur ce pays des Balkans, sur l'Albanie.
Et oui, si elle nous est mal connue, si elle nous est aussi mal connue, c'est que l'Albanie a été coupée du monde durant 47 ans. Le pouvoir communiste en avait fait, selon l'expression toujours en vigueur aujourd'hui là-bas, la Corée du Nord de l'Europe. Une dictature implacable, où les gens suspectés de nourrir des pensées dissidentes disparaissaient dans la nuit, où les élèves des écoles, comme il le raconte dans son roman, étaient invités à cracher à tour de rôle sur leurs professeurs qui avaient été préalablement battus par la police. En Albanie, où chrétiens et musulmans vivaient en bonne intelligence, le régime communiste a interdit tous les cultes et il persécutait les croyants. Le dictateur Enver Hoxha, donc, parce qu'il refusait la déstalinisation, rompit d'abord avec l'Union soviétique pour s'aligner sur la Chine maoïste. Par la suite, il se fâcha aussi avec les Chinois et exigea la construction de milliers de blocos et de casemates de béton en vue d'une improbable invasion de son pays. Le pays tout entier était une prison, explique Kaplani. S'approcher des frontières était très dangereux. Pour le prix de ses folies et de l'autarcie où l'avait plongé leur régime délirant, les Albanais vivaient en outre dans une extraordinaire pauvreté. Pas étonnant que, sitôt les frontières réouvertes, en 1991, des dizaines de milliers d'Albanais choisirent de fuir leur pays en ruine, malgré les risques encourus. Mais de retour dans sa patrie perdue, Karl, donc, qui est le héros de ce roman, Le pays des pas perdus, découvre qu'elle est devenue la proie des oligarques et des mafieux. Le roi du béton local est découvert assassiné en compagnie de sa maîtresse dans sa Jaguar toute neuve. Quand donc l'Albanie deviendra-t-elle un pays européen comme les autres ?
Merci beaucoup Brice Couturier donc pour ce roman Le pays des pas perdus, édition Intervalle. Gasmen Kaplani. Merci beaucoup cher Brice Couturier. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.